24, vous êtes bien sûr Radio Alpha, vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13, je suis Didier Caramalo et je suis maintenant en compagnie de Christelle Alves-Mera. Bonjour Christelle.
Bonjour Didier.
Comédienne de formation, metteuse en scène de théâtre, vous êtes également réalisatrice et vous venez aujourd'hui nous présenter votre nouveau film, nous parler de votre premier long métrage, il s'appelle Alma Viva et sortira en salle enfin demain, mercredi 12 avril. Ça fait quelque temps maintenant que vous tournez avec ce film un peu partout, dans le cadre d'avant-première, souvent en présence de l'équipe du film. Mais avant de plonger un peu plus dans cette fiction, que je dirais être sur le fil tout le temps, entre le réel et l'irréel, la tradition et la superstition, quelles ont été jusqu'à présent les réactions du public? Qu'est-ce qu'on vous raconte à la sortie des salles?
Alors, j'ai la chance de tourner le film depuis presque un an, parce que le film a commencé sa vie au Festival de Cannes au mois de mai dernier. Donc depuis, il a été dans de nombreux festivals, il a fait beaucoup d'avant-premières, il est déjà sorti aussi au Portugal. On a eu même la chance de représenter le Portugal aux Oscars. Donc voilà, j'accompagne ce film depuis quelques mois et j'ai pu avoir de nombreux retours de spectateurs, des spectateurs portugais, français, mais aussi d'autres pays. Et ce qui ressort surtout, c'est ce lien de cette petite fille avec sa grand-mère, une petite fille qui nous amène à renouer avec des traditions, des sensations qu'on a un peu oubliées. Et puis ces histoires de famille, ces histoires de deuil, ces mots difficiles à dire quand on souffre, quand on est face à quelqu'un qu'on a perdu, la question de l'héritage, des partilhas en portugais, mais donc voilà, des partages des biens. Et donc ça génère des tensions dans les familles, mais pourtant on s'aime, mais on ne sait pas comment s'en dépatouiller. Voilà, il y a un retour comme ça à ces petits villages, à ces relations qui se nouent entre les gens, qui se perdent aussi dans nos sociétés. Donc je sens que voilà, beaucoup ressortent avec beaucoup de nostalgie, avec aussi du plaisir, puisqu'ils ont ri aussi. Et c'est très beau de voir que ça évoque chez chacun un moment de leur histoire.
Venons-en maintenant plus précisément au film alors. Comment le décrire sans trop en dire? Alma Viva est un film, je dirais, qui raconte le lien à l'absent. C'est un film sur le temps arrêté, nourri par vos propres souvenirs d'enfance. Ce n'est sûrement pas un hasard si le personnage principal est une petite fille, votre petite fille, Lua Michel. C'est aussi un film sur les villages reculés des montagnes portugaises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions?
Oui, tout à fait, c'est tout ça. Le film est plein, il y a plein d'entrées possibles dans le film, mais je dirais que surtout moi, ce qui m'a animée et poussée à le faire, c'est l'envie de filmer cette région, ce Portugal de l'intérieur, ces montagnes, ces paysages qui me renvoient aussi, qui me permettent de me rappeler d'où je viens. C'est vrai que quand je passe en voiture et que je regarde ces montagnes, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont chargées de la mémoire de mes ancêtres. Et voilà, j'ai écrit ce film en essayant de me rappeler de ces traditions, de ce que m'a enseigné ma grand-mère, ses rituels, ses croyances. Et de choisir ma petite fille comme actrice principale, c'est aussi une façon de lui transmettre ce Portugal qui est voué à disparaître aussi. Par exemple, les veillées funèbres, aujourd'hui, on n'enterre plus, on ne veille plus les morts à la maison, ou de moins en moins. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a tendance à écarter la mort parce qu'elle nous fait peur, parce que se rappeler qu'on va mourir, c'est aussi se rappeler de notre vulnérabilité, de notre finitude. Alors maintenant, avec le progrès, on pense qu'on peut tout dépasser et qu'on est tout puissant. Voilà, mais donc le film, c'est aussi un retour à ces réalités-là, quoi. Je fais face à la mort. Alma Viva, ça veut dire l'âme vivante. C'est justement l'âme de cette grand-mère qui est morte, mais qui est toujours parmi nous. Et c'est aussi ça, le film, c'est ce lien entre les vivants et les morts. C'est donc ce retour aux ancêtres, justement, se rappeler de ceux qui sont partis et de ce qu'ils nous ont laissé.
Et vous parliez à l'instant de transmission à votre petite fille. Ce film est également marqué, indéniablement, du sceau féminin. C'est un film matriarcal, je dirais même. C'est l'histoire d'une jeune fille, Salomé, très attachée à sa grand-mère, elle-même vivante avec sa fille, magistralement interprétée par Anna Pedron, soit dit en passant. Les femmes ont un rôle primordial dans ce film. Ce sont elles qui portent le deuil, ce sont elles qui transmettent la tradition, qui transmettent les croyances, ce sont elles qui sont accusées d'être des sorcières quand elles sont trop indépendantes, je cite le film. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre les femmes au premier plan dans ce film?
Il était temps qu'on parle un peu des femmes. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup dans les médias, et tant mieux. Depuis quelques années, avec le scandale MeToo, au moins, les femmes reprennent un petit peu de place dans les médias et même dans la société, et on a encore du chemin. Donc moi, c'est sûr que c'est les femmes qui m'ont inspiré ce film, mais surtout, c'était essayer de comprendre cette figure de la sorcière, quoi. Pourquoi, dans le film d'ailleurs, et puis même dans mon village, des expériences que j'ai pu vivre, je suis née en France de parents portugais, donc je vais tous les étés là-bas. Mmh. Et donc, souvent, on accuse les femmes d'être des sorcières pour, à partir du moment où les femmes ne rentrent pas dans les règles, ou en tout cas, elles se comportent, ou elles ont un comportement déviant à ces sociétés conservatrices, et ben, on les accuse d'être sorcières. Donc, dans le film, on va accuser la grand-mère d'être sorcière parce qu'elle a trompé son mari, parce que elle parle avec les morts, donc elle fait des sorcelleries, ou parce que, tout simplement, elle exhibe ses seins, parce qu'elle a une très belle poitrine, et mmh. elle est fière de la montrer. On va accuser sa mère, par exemple, qui est interprétée par Jacqueline Corrado, on va la moquer, on va la critiquer parce qu'elle a élevé sa fille seule, il n'y a pas de père. Et pourtant, voilà, si elle décide d'élever sa fille seule, pourquoi pas. Et puis, il y a la tante, Fatima, qui est jouée par Anna Padelan, qu'on va aussi accuser parce qu'elle a un amour transgressif avec la voisine, donc là, on est dans des amours interdits et très difficiles à assumer. Et puis, il y a cette petite Salomé aussi qu'on va accuser d'être le diable parce que bah, elle a un désir de vengeance, elle veut venger sa grand-mère et on voudrait qu'elle soit la petite fille, bien élevée, bien sage, bien à sa place. Donc voilà, c'est très simple en fait, c'est ce que dit le personnage aveugle dans le film. Il dit, tôt ou tard, toute femme indépendante est traitée d'être sorcière. Bah, c'est ça, c'est que les sorcières, c'est toutes ces femmes qui transgressent, qui s'émancipent. Mais la figure de la sorcière aujourd'hui, pour nos auditeurs, s'ils ne le savent pas, c'est aussi une figure féministe. Mmh. Et aujourd'hui, être sorcière, enfin en tout cas pour moi, je me sens sorcière et j'en suis fière. Je voulais un peu revisiter ce mot-là, parce que bruche, ça fait peur, c'est un tabou, on n'a pas le droit d'en parler. J'ai toujours vu mes tantes, ma mère, les femmes de mon village se cacher. Pourtant, des histoires de sorcellerie, il y en a dans tous les villages. C'est aussi ce dont témoigne le film, ces guerres entre voisins qui se passent de génération en génération. Mmh. Pourquoi il faudrait se cacher pour en parler ? Le temps de la chasse aux sorcières est terminé, le temps de l'inquisition aussi. Je pense qu'aujourd'hui, être sorcière, c'est assumer notre puissance féminine, c'est assumer aussi notre lien à la nature, à un certain paganisme, parce que le film, il est plein de rituels païens. Et cette nature qu'on est en train de dégrader, quoi. Le pouvoir en place, en fait, il voudrait nous faire croire que ce qui compte, c'est la rationalité. Donc voilà, être sorcière aujourd'hui, c'est aussi dire, bah non, c'est peut-être pas que la rationalité. On peut ouvrir les horizons vers autre chose. On peut croire à l'invisible, à d'autres façons d'habiter la nature et le monde. Et voilà, la sorcière, c'est du coup une figure de femme libre.
Je vois très bien, mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on évoque par bribes ce film sans vraiment en parler. Comment le décririez-vous pour nos auditeurs et auditrices ?
C'est un film qui essaie de dresser un portrait très sincère et en même temps très amusant parce que ces personnages, ils paraissent très réalistes parce que la plupart d'entre eux sont des gens qui viennent de mon village ou de la région. Donc, mm-hmm. c'est des acteurs qui ne sont pas professionnels, donc qui ont une façon de parler, une façon de bouger, qui ont un corps qui est habité aussi par cette région. Par exemple, les vieilles dames, on voit tout de suite à leurs mains, elles ont des mains abîmées, travaillées par la ruralité. Donc, ça paraît très vrai, ça parle vrai. J'ai pas eu peur d'être vulgaire aussi, parce que de toute façon, c'est aussi
c'est
cette vulgarité, mais ça m'amuse aussi, voilà, de provoquer un petit peu les esprits, de dire, oh là là, pourquoi il faudrait que tous les personnages se comportent toujours de façon très respectueuse. Dans la vie, on ne l'est pas forcément. Et donc, il y a ce côté très réaliste, et en même temps, c'est des personnages de cinéma. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pensé à des films comme Almodovar. Mmh, ouais. C'est des femmes très puissantes qui parlent comme des hommes. Il y a des situations, c'est pas possible dans la vie. Enfin, je veux pas ici spoiler, mais il y a des situations un peu complètement burlesques et comiques dans des situations dramatiques. Alors, parfois, ça arrive, hein, que dans des situations dramatiques, il se passe des choses drôles dans la vie. Mais bon, là, j'ai poussé un peu le trait. Et en fait, on est dans un film très réaliste et puis ensuite, on bascule dans quelque chose de presque un peu théâtral, comme ça, ou de l'ordre de la farce. Et ça m'amusait parce que souvent, c'est avec l'humour qu'on peut aussi désamorcer le drame. Mmh. Et moi, quand je vais au cinéma, j'aime bien rire, j'aime bien pleurer. Donc voilà, j'essayais de pousser mes personnages et les acteurs à nous donner beaucoup d'émotions. C'est un film très généreux, quoi. Voilà, on s'ennuie pas, c'est généreux, il se passe beaucoup de choses. C'est presque un film d'aventure, un peu comme un western aussi. On s'engueule, on se réconcilie, on s'aime mais on sait pas se le dire. On a toute l'émotion de cette petite fille qui essaye d'être en lien avec sa grand-mère qui est partie, avec tous ces rituels qui nous donnent envie de croire, quoi, qu'il y a autre chose. C'est un film plein d'espoir.
Et justement, Cette envie de croire qu'il y a autre chose. On peut dire de votre film, on en a déjà parlé précédemment, qui s'inscrit dans un courant latino-américain qu'on pourrait appeler le réalisme magique. Pour rappel, le réalisme magique est un courant qui cherche à représenter les aspects magiques de la réalité, à trouver le miracle dans les détails du quotidien. Cependant, vous avez un parti pris, j'ai l'impression, dans ce film, qui est d'assumer complètement l'existence de la sorcellerie, l'existence des esprits. Après tout, c'est le point de vue d'une enfant qui est ouvert à l'imagination, donc à l'invention. Et vous, j'ai l'impression qu'Alma Viva n'est pas du tout un film qui laisse entendre qu'autre chose existe. C'est un film qui assume pleinement de dire « oui, ça existe, la part ésotérique est assumée ».
Alors, c'est vrai que Salomé et sa grand-mère, donc les deux personnages principaux du film, croient vraiment, même pas y croient. Pour eux, pour elles, les sorts, les mauvais sorts, le mauvais œil, c'est une réalité.
Oui, ça c'est pas une question de croyance.
Il
n'y
a même
là.
Pas une question de croyance, ouais, ça existe. Sûr. C'est pour ça qu'elles y croient et qu'elles sont prises aussi dans un engrenage. Elles se créent, il y a des ennemis, il y a des guerres entre voisins qui se passent de génération en génération. Pour elles, c'est une réalité. Mais j'ai quand même d'autres personnages en contrepoint qui donnent une autre vision des choses. Mm-hmm. J'ai vraiment voulu aussi laisser l'interprétation du rationnel et pas justement imposer... Parce que souvent, dans les croyances face à l'invisible ou face au sort ou face aux histoires de sorcières, on n'a pas envie d'y croire, mais ça nous rattrape. Il y a toujours ce doute, en fait. Donc, je voulais vraiment... que le doute persiste. Par exemple, l'incendie, il y a deux interprétations possibles. Il y a un incendie
absolument,
dans le film.
Oui, oui.
Soit c'est vraiment la canicule qui fait l'incendie, soit c'est plutôt la malédiction du fait de ne pas enterrer cette grand-mère. La mort de la grand-mère.
Frappé.
Le docteur dit que c'est un AVC, mais Salomé est sûr que c'est un mauvais sort. Bon, voilà,
un mauvais sort qui arrive par le poisson,
oui.
Qu'on voit traité par la méchante, disons, au début du film. Mais enfin, quand on voit la façon dont il était pêché, ce poisson, le poisson a peut-être été contaminé par la façon dont il a été pêché également. Donc.
Oui, parce que la pêche à la dynamite,
Absolument.
Cette scène d'une pêche à la dynamite qui est aussi un témoignage d'une réalité, parce que c'est pas une pratique courante, bien sûr, c'est une pratique illégale, heureusement. Elle est, on peut aller en prison, quoi, elle est passible de prison. Mais elle continue à se pratiquer, en tout cas, voilà, dans cette région de Tlajumont, qui ressemble un peu. Moi, je dis, ils sont loin des lois, quoi. Ils sont loin de tout. Ils s'autorisent
western,
beaucoup de choses.
Justement.
C'est le côté western. Voilà. Donc, il y a cette pêche à la dynamite qui peut être vue comme quelque chose de très réaliste et d'interdit, de brutal. Et en même temps, qui peut aussi être vue comme quelque chose presque de biblique ou de miraculeux. Une sorte de pluie de poissons. Et ces poissons qui vont, être malmenés, ensorcelés par.
Puis consommés plus tard. Et
voilà. Exactement.
Et il y aura tout un enchaînement d'événements dont on ne sait finalement jamais vraiment l'origine.
Et ben, ouais.
Sur le fil.
Et ça, sur le fil, exactement. À la frontière entre, on ne sait pas, réalité, magie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le réalisme magique. Et puis, il y a toujours un truc, c'est toujours à la frontière, le film, ombre et lumière. Les méchants ne sont pas complètement méchants. Ils ont aussi leur raison de l'être, ils sont très humains. Il y a cette frontière entre le païen, le sacré, la vie, la mort. On a une morte sur un plan et pourtant, il y a la vie autour, ce petit gamin qui chasse les mouches, le chien qui continue à vivre, cette petite fille qui finalement est très proche du cadavre de sa grand-mère. Il n'y a rien de glauque, il n'y a rien de trop triste ou de trop dramatique. On accepte aussi les morts qui vivent avec les vivants, ou possèdent les vivants, c'est bon.
Christelle Alves-Mera, on continue cet entretien dans un instant, mais pour l'instant, on va marquer une courte pause. Vous restez là ?
Oui, à tout à l'heure.
Christelle Alves-Mera, est-ce que vous croyez au miracle ?
Oui, pour faire du cinéma, il faut un peu croire au miracle, parce que c'est franchement vraiment pas facile de faire un film. Là, Alma Viva, c'est quasiment 10 ans de ma vie. La première idée, c'était... ma fille était encore... j'étais enceinte de mon premier enfant, donc il y a 10 ans aujourd'hui.
Vous avez accouché de votre enfant
voilà,
comme de ce film.
Voilà, exactement. Non, mais c'est très long, parce que bon, d'abord, j'avais pas fait d'école de cinéma, donc j'ai appris sur le tard, voilà, par moi-même. Je me suis acheté ma petite caméra, j'ai fait mes premiers films. Bon. Donc c'est aussi ce qui a fait que c'est très long, mais je vois autour de moi les autres amis réalisateurs. Un premier long, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, c'est dur à financer. Et donc, ça prend du temps. Donc oui, il faut croire au miracle un petit peu. En tout cas, il faut avoir foi à l'impossible. Il faut vraiment avoir foi en son projet et ne jamais se laisser décourager, quoi. Parce qu'il y a des moments quand on passe en commission, que le projet passe pas, on se dit « oh là là, je vais jamais y arriver ». Donc il faut vraiment persévérer. Mais ça, je dois ça à mon père. Il m'a toujours dit « il faut croire en tes rêves et il faut tout faire pour y arriver ». C'est un peu basique, hein, mais c'est la clé, quoi. Croire en ses rêves, avoir des rêves déjà, parce que parfois c'est pas facile de les capter. Mais moi, j'ai toujours cru qu'un jour, Alma Viva, j'y arriverais. J'ai jamais rien lâché, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis là. Il sort demain en France et je suis très, très heureuse. Et oui, les petits miracles, il y en a partout, tous les jours, dans la vie, je crois. Et d'ailleurs, dans Alma Viva, il y a des petits miracles aussi.
Ah bah c'est un film sur le miracle. Oui, d'ailleurs, c'est Télérama qui parle d'un petit miracle venu du Portugal. Ça a dû vous toucher, ça.
Ah ouais, j'ai trouvé cette phrase très belle et j'étais contente qu'il l'ait choisi pour mettre sur l'affiche. Ouais, parce que du coup, dans Miracle, il y a aussi toute la dimension un peu spirituelle, puisque c'est un film qui... C'est pas un film religieux du tout, hein. Il est beaucoup question
de paganisme
exactement, oui, mais c'est donc un retour aux rituels, quoi. Les rituels qui nous lient, qui nous ramènent aussi aux traditions. On a besoin de rituels pour se transformer. Et le rituel aussi, ça revient un peu aux histoires qu'on pourrait oublier de notre humanité, quoi. Enfin voilà, donc le miracle, j'aime bien.
Oui, c'est un film sur le paganisme, mais qui est propre au Portugal aussi, finalement, qui est une terre de syncrétisme religieux, puisque la religion catholique, elle y est très présente. Il y a l'aspect du maranisme aussi qui est là. Donc forcément, il y a cette question aussi de comment on transmet à nos enfants une tradition juive sans annoncer qu'on est juif, puisque l'Inquisition nous tombe dessus. Donc finalement, il y a toutes ces histoires se mélangent et on crée de nouvelles histoires dont on ne sait plus si elles sont religieuses, effectivement, païennes. C'est vraiment un film aussi qui parle de ce syncrétisme-là.
Oui, et qui parle aussi de ce besoin de croire au-delà des dogmes. Au-delà des dogmes, on peut s'inventer en fait une façon d'être au monde qui passe par des rituels inventés. Dans Alma Viva, en fait, la plupart des rituels sont inventés. En fait, on a une impression que c'est très réaliste et que c'est effectivement documenté. J'ai été voir, j'ai rencontré des médiums, des guérisseurs, des psychologues, parce qu'on les appelle comme ça aussi, certains. Ils ont tous beaucoup de noms, bien sûr. On les appelle plus les bruches et les bruches. Mais bon, ils sont là pour guérir les maux spirituels et j'en ai vu plein. Et en même temps, j'ai vu que chacun, il n'y a pas un livre qui nous apprend comment faire, il n'y a pas un livre des rituels, quoi. Chacun va créer ses propres rituels avec ses guides. Donc, pour certains, ça va être un tel saint, un autre, telle ou telle prière, tel ou tel tarot. Enfin, ils ont plein de petits objets, des symboliques. Et ensuite, ils se créent leur rituel. Bah, moi, pour Alma Viva, j'ai fait pareil. J'ai inventé un rituel de cette grand-mère qui parle. Elle est médium, elle apaise les âmes des défunts. Et donc, j'ai choisi, par exemple, Saint-Georges, qui n'est pas du tout un saint qui est très connu.
Qui est lié à l'exorcisme.
Alors, Saint-Georges, moi, c'est en lisant, parce que j'ai aussi lu beaucoup Allan Kardec, chez les spirites du côté brésilien, parce qu'il était donc question de parler avec des morts, donc ça me paraissait logique d'aller voir de Scorreda.
Du spiritisme, ouais.
Voilà, et en fait, Saint-Georges est plutôt brésilien, mais il y a pas mal d'émigration brésilienne aussi à travers le monde, donc j'ai pu remarquer que Saint-Georges était quand même... Je le retrouvais sur les étagères des praticiens. Et surtout, je le trouvais, moi, très visuellement intéressant pour le cinéma parce qu'il tue le démon. Vraiment celui qui est entre...
Tu penses à Saint-Michel, un peu.
À Saint-Michel, voilà. Il a le pouvoir absolu contre le mal. Et comme on accuse cette petite fille d'être le diable, voilà, ça me paraissait... Donc, on a recréé, en fait, on a fait construire une chapelle dans la montagne, là-bas, au-dessus de mon village, qui n'existait pas. Une chapelle pour le film qui était dédiée à Saint-Georges, parce que la petite Salomé, à un moment donné, voilà, va parler à Saint-Georges.
S'échappe dans les montagnes.
Et en fait, cette chapelle, ce qui est trop drôle, c'est qu'elle est restée en place.
Oui, c'est ce que j'avais demandé.
Et qu'à la fin du tournage, le prêtre est venu la bénir, et que c'est devenu vraiment un lieu de culte.
Donc aujourd'hui, on peut aller
aujourd'hui,
dans la chapelle Saint-Georges.
Aujourd'hui, vous pouvez voir au Calvário. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que le chef décorateur, il a eu une très belle idée. C'est que pour l'architecture de ce calvaire, il s'est inspiré de l'architecture des pombais. C'est-à-dire, c'est les palombières de Trás-os-Montes. Normalement, c'est un peu plus grand. Et en fait, on a reconstruit un pombal plus petit, mais c'est devenu un calvaire. Donc, on a fait un mélange entre une architecture traditionnelle de la région, qui est devenue un lieu de culte pour un film, et qui finalement est un lieu de culte réel.
C'est incroyable.
C'est très, très beau. Voilà. Mais les gens, quand ils voient le film, ils pensent que vraiment Saint-Georges est très prié là-bas. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment été chercher. J'ai créé mon propre sanctuaire.
Oui, c'est ça, c'est une couche de plus dans la croyance.
Tout à fait, pour le film. Et même la petite prière qu'elle prie, c'est une prière qui est inspirée d'une prière à Saint-Georges, mais qui a été réadaptée pour le cinéma. Le compositeur de musique, il a utilisé une berceuse, Trás-os-Montes, pour créer le rythme de cette prière. Mais vous voyez, c'est un mélange, c'est vraiment une fiction, en fait. Même si ça a l'air très réaliste, et ça, je suis très heureuse que ça ait l'air très réaliste, parce que j'aime bien que les spectateurs croient à ce que je leur raconte. Pourtant, c'est sorti de mon imaginaire, c'est vraiment comme un conte avec, par exemple, la petite fille fume des cigarettes pour appeler les esprits. Ça, c'est pas du tout...
On est au-delà
du paganisme.
L'image est assez frappante, d'ailleurs, quand on a ça à l'écran, qu'on voit cette petite allumer sa clope.
Tout à fait, il fallait trouver une image un peu forte. Et en fait, j'ai trouvé ça chez les Asiatiques, ou bien en Amérique latine, chez les chamans, quand il est question d'appeler les morts. Souvent, il faut la présence de la fumée, donc c'est des présences comme ça d'éléments. Et la cigarette, j'ai vu ça dans un film asiatique où ils appelaient les morts. Et je me suis dit, tiens, ça c'est très visuel. Et entre-temps, il y a un spectateur qui était dans la salle qui m'a dit, mais tu sais, à Tlaj Ouzhmand, il y a un petit village où les enfants fument des cigarettes une fois par an. Et j'ai dit, ah bah tiens, ça je savais pas. Et il m'a montré des photos. Et alors, il sait pas d'où vient ce rituel, mais une fois par an, tous les enfants ont le droit de fumer une cigarette et ils les prennent en photo.
Mais justement, le Portugal est plein de ces petites choses dont on ne sait pas d'où elles viennent et elles sont là, pourtant elles font partie de notre quotidien. Et avant Alma Viva, vous avez quand même réalisé plusieurs courts-métrages.
Oui. Bah en fait, j'écrivais Alma Viva et comme je l'ai dit, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc il fallait apprendre à faire des films et c'est en faisant les courts-métrages que j'ai d'abord, moi, appris à faire un film, que j'ai commencé à réunir des équipes, puisqu'un film, ça se fait pas seul. C'est vraiment toute une équipe. Donc, je me suis fait aussi une petite famille de cinéma au Portugal. J'ai commencé à travailler avec des chefs opérateurs, des producteurs, voilà, et tous les techniciens et les postes dont on a besoin vraiment beaucoup de monde pour faire un film. Et surtout, j'ai commencé aussi à tourner dans mon village, dans ma région. Donc, j'ai préparé un petit peu les gens à l'arrivée du grand film. Donc, souvent, en disant, on va faire un petit film et puis après, il y aura le grand film, comme ils disent. Le long film, le long métrage. Parce que c'est vrai que pour le long métrage, on s'est installé quasiment 6 mois dans le village. Et donc, c'était...
Que vous connaissiez bien, puisque c'est...
C'est mon village, c'est oui, c'est mon village. D'ailleurs, je pense que
c'est
si j'avais pas...
C'est 6 mois de vacances, finalement.
Oh, non, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, c'est vrai que c'était drôle de voir les acteurs non professionnels... qui au début étaient super contents, ouais, on va faire un film, et puis quand on est dans la réalité du travail, il fallait les motiver, parce qu'en fait, on répète tout le temps la même chose. Donc, les vieilles dames disaient tout le temps, parce qu'il y a une grande scène de cortège funéraire. Et en fait, cette grande scène, elle dure 20 jours de tournage. On commençait le premier
jour...
Pour
une vingtaine de minutes à l'écran.
Pour une vingtaine de minutes à l'écran. Et donc, les dames disaient, mais on va encore outre vez? Vamos outra vez com a caixão? Oui, temos que ir outra vez com a caixão. Mas já fizemos isso antes, mas sim, mas temos que voltar a fazer. Et voilà. Et donc, à un moment, ils découvrent aussi ce que c'est faire un film. C'est beaucoup de répétitions, c'est énormément de travail. Donc, c'était pas du tout des vacances, ça, je vous assure que non. Mais c'était... Et malheureusement, ça aurait pu être plus joyeux si on était en pleine période de Covid. Donc, ça a rendu les choses quand même... plus stressante. On avait quand même très peur, on avait beaucoup de protocoles, on avait peur que le Covid arrive sur le plateau.
Puis ça devait être particulier pour ces vieilles dames.
Bah oui. Donc
de travailler sur la mort en plein Covid.
Ah oui, non, mais c'est pour ça, c'était quand même un peu angoissant. Mais en même temps, il y avait un désir de sortir, parce que c'était 2021, donc on avait tous passé beaucoup de temps enfermés, seuls. Et là, de voir cette équipe de cinéma arriver, il y avait un protocole très strict qui était très rassurant, c'est-à-dire que personne n'arrivait sur le plateau sans faire de test. Donc voilà, on était bien habitués aux tests, surtout qu'au Portugal, c'est les deux narines, c'est pas juste une. Donc voilà, mais on faisait très attention et on n'a pas eu de cas Covid, on a eu plein d'autres imprévus. Ça fait partie de tous les films, c'est souvent comme ça, mais par contre, pas de cas Covid, heureusement.
Quel était l'imprévu le plus compliqué à gérer ?
On a eu des pluies pendant 3 jours, des pluies diluviennes qui ont envahi qui ont même bouleversé le village. Il y a des maisons qui ont été emportées, etc.
Ah waouh.
Et ça, c'était en plein mois de juin. C'était pas du tout prévu, quoi. Mais normalement, il y a jamais de pluie.
C'est un signe, ça.
Ah Christelle. Oui. Ça, c'était.
Vous êtes allé frapper à des portes.
Voilà.
Ou...
Là, je me demande si les sorcières, elles étaient pas très loin. Bon, ben, ça m'étonne. Vous savez, quand on touche à ce genre de sujet, forcément, on est toujours un petit peu. On prend des risques, hein, n'est-ce pas? Mais bon, tout s'est très bien passé parce que c'était les bonnes sorcières qui l'ont emporté.
Et pour revenir brièvement à vos courts-métrages qui vous ont permis de vous entraîner finalement et de prendre votre élan pour ce premier long-métrage qui est Alma Viva, ils étaient plutôt documentaires et pas fictionnels. Qu'est-ce qui vous a ramené du coup vers la fiction? Et pourquoi s'entraîner avec le documentaire?
Alors c'est vrai que j'ai commencé avec le documentaire dans des anciennes colonies africaines portugaises. Donc j'ai été au Cap-Vert et puis après en Angola. Donc c'est vraiment par le détour des anciennes colonies que j'ai commencé à questionner mon identité portugaise. Donc là, c'était vraiment des documentaires. Mais après, les courts-métrages que j'ai faits sont vraiment de la fiction, avec toujours cette impression que c'est documentaire, parce que je navigue un peu dans la façon de faire. En fait, comme je travaille beaucoup avec des acteurs non professionnels, donc des gens qui font vraiment partie du lieu, que j'ai une façon de filmer, caméra au point, que je cherche en fait à créer aussi ces moments d'imprévu, comme dans la vie. Il y a une énergie dans les films qui donne l'impression que tout est pris sur le vif. Et pourtant, pas du tout. Il y a énormément de mise en scène et tout est provoqué par une mise en scène. Mais c'est le sentiment qu'on a, c'est presque documentaire. Je suis vraiment entre les deux. Et Alma Viva aussi, hein, on a cette impression d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu as fait? Tu as mis le feu à ton village? Tellement l'incendie paraît réaliste.
Paraît réel, ouais.
Et tellement ça renvoie à des images qu'on a tous vues, le Portugal qui brûle. Moi, je l'ai vu brûler depuis, j'ai 40 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans que je vois le Portugal brûler. pas beaucoup du côté de Trajmond. Pour le coup, c'est plus du côté de mon père, Mignotte, où là, il y a les eucalyptus et tout ça. Il y a souvent des incendies. Mais maintenant, les incendies au Portugal sont devenus vraiment internationaux. Enfin, tout le monde, avec les très grands incendies qu'il y a eu dans les médias, tout le monde en a parlé. Donc, quand on voit le film et ce final avec l'incendie, forcément, ça nous renvoie à des images documentaires de reportages. Et c'est pour ça que les gens pensent que c'est vrai, quoi. Mmh. Et pourtant, non. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est 20 jours de tournage avec un incendie. Impossible. On n'aurait pas pu tourner avec un vrai incendie. Donc, on a vraiment recréé l'évacuation d'un village, on a dû faire appel à beaucoup d'effets spéciaux. En fait, Alma Viva, s'il y a des jeunes qui ont la vocation de faire des effets spéciaux, allez voir mon film, parce que c'est une prouesse d'effets spéciaux. C'est pas Avatar, on les voit pas les effets spéciaux, mais il y en a partout. Donc, je lance le défi aux éditeurs repérer de trouver, parce qu'il y a par exemple, il y a un monument. Je suis sûre que personne ne va voir que c'est un effet spécial, mais ce monument n'est pas du tout de Trajmond, il vient d'un autre pays en Europe. Et pourtant, on l'a mis là, et tout le monde pense que... Ce monument-là, c'est une espèce de roche comme ça, qui a une tête de diable, il y a une grande bouche ouverte, et j'avais été, bon allez, je révèle, j'avais été en Italie, près de Tivoli, il y a un jardin qui s'appelle le Jardin des Monstres, et j'avais vu ce monument, et je m'étais dit, ah oh, mais ça serait super si on pouvait voir ça dans les montagnes, parce que ça annonce aussi le fait qu'on va traiter Salomé d'être le diable, toute cette question du mal qui rôde, la malédiction, les diableries et tout ça.
Et qui arrive par la nature même.
Et qui arrive par la nature. Et donc, j'ai la chance que la personne qui gère les effets spéciaux, c'est mon compagnon de vie, donc je l'ai sous la main. Donc, on a pu parler longtemps, se dire comment on peut faire techniquement pour pas qu'on voit que c'est un effet spécial et qu'on y croit. Et voilà, et lui, il a le savoir-faire. Donc, ça demande beaucoup d'étapes de travail parce qu'il faut préparer pendant le tournage. Ensuite, en post-production, la post-production, c'est tout ce qui se passe après le film. Mais grâce à ses talents, on a réussi... Et donc, il y a tout l'incendie qui c'est des effets spéciaux, il y a tous ces ciels étoilés, il y a la grand-mère, par exemple, qui ne voulait pas fumer. Elle ne fumait pas dans la vie, donc on lui a rajouté des fumées, quoi. Elle fume. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. C'est la magie du cinéma, vraiment. Là aussi, il y a des petits miracles de l'image qui s'opèrent.
Et vous parliez de l'irruption du réel dans la mise en scène, justement, pour créer des choses inattendues à l'écran. C'est le théâtre qui vous l'a appris, ça, je suppose.
Bien sûr, au théâtre, c'est imprévisible. On est tous les soirs, tous les soirs un peu différent, vu que c'est du spectacle vivant. Mais bon, il y a quand même un texte à dire, il y a des lignes de dialogue à suivre. Donc, je sais pas trop si ça vient du théâtre. En tout cas, c'est vrai que quand on était sur le plateau, le fait de travailler avec des acteurs non professionnels, il faut aussi créer les conditions pour qu'ils voient pas l'artifice. Parce qu'un acteur non professionnel, s'il voit trop la machinerie, le micro, les caméras, ça l'impressionne. Et du coup, il n'arrive plus à trouver ce naturel qu'il a dans la vie. Et en fait, si on choisit des acteurs non professionnels, c'est qu'ils sont ultra naturels. Et c'est pour ça qu'on les choisit, quoi. Donc, il faut donner l'impression que voilà, tout va se passer comme si c'était dans la vie, quoi. Et donc, pour ça, il faut que la caméra soit pas trop près, il faut que les lumières soient pas gênantes. Enfin, faut créer toutes les conditions pour que ça circule bien. Et c'est surtout le caméraman qui doit s'adapter aux acteurs et pas l'inverse. Mais il y a des réalisateurs qui travaillent complètement autrement. C'est vraiment une façon de faire du cinéma, quoi. Je ne suis pas la seule à le faire. C'est vraiment toute une veine de cinéma depuis toujours. D'ailleurs, il y a toujours eu des films qui sont entre le documentaire et la fiction.
Et comment êtes-vous tombé dans le cinéma, alors? Comment êtes-vous, je ne sais pas si vous l'avez quitté complètement, mais laissé un peu le théâtre pour vouloir faire du cinéma? Parce que j'imagine qu'on vous retrouvera plus facilement avec un prochain film au cinéma qu'avec une prochaine mise en scène
Oui,
au théâtre.
Non, c'est vrai que le théâtre, c'était entre... J'ai commencé, j'avais 19 ans et je me suis arrêtée il y a à peu près 10 ans. Bon, donc c'était 10 ans de ma vie à peu près. C'était des années très fortes parce que le théâtre, c'est des aventures humaines. On était une bande, on sortait d'école, de théâtre. On a monté des projets, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est très précaire. C'est beaucoup d'énergie pour franchement avoir à la fin pas grand-chose. Et même s'il y a eu des grands théâtres à Paris, il y a eu une belle reconnaissance de la presse, je regrette rien. Il y a quand même eu aussi des dettes. C'était dur parce que j'étais moi-même directrice de ma compagnie théâtrale, donc je devais trouver les financements pour payer les personnes. Enfin, c'était dur, quoi, financièrement parlant. Et en fait, ça a été en 2011, j'ai eu du mal. En fait, je me suis un petit peu endettée pour payer les acteurs. Et là, je me suis sentie vraiment fatiguée du théâtre en me disant. Oh là là, j'en peux plus, ça pèse. Et du coup, c'est à ce moment-là que ma grand-mère est décédée. Et c'est au moment du décès de ma grand-mère que j'ai vraiment eu envie de raconter cette histoire, de me questionner sur ces histoires de famille, d'immigration, de Pertilège, parce que j'ai assisté à des disputes assez violentes dans ma famille autour de ma grand-mère qui n'était pas encore enterrée. Ils savaient pas, ils étaient pas d'accord sur qui allait payer la pierre tombale et elle est restée 2 ans sans pierre tombale. Mmh. Et en fait, c'est face à cette incompréhension de ma famille que j'ai vraiment voulu écrire ce film, même si le film n'est plus du tout en lien avec eux. Enfin, je veux dire, les personnages du film, c'est pas mes oncles et mes tantes. Hein. Il reste à peine une scène qui aborde la question de la pierre tombale. Après, la fiction a vraiment pris le pas.
Après, il y a un oncle aveugle dans le film qui est aussi votre oncle aveugle.
J'avais un oncle aveugle, mais rien à voir avec ce personnage, parce que ce personnage est très littéraire. Il utilise des images, il est féministe.
C'est un Tirésias.
Voilà, donc c'est plutôt mon goût pour le théâtre. Mais j'avais effectivement un oncle aveugle, donc ça c'était un petit clin d'œil à mon oncle aveugle, mais qui lui était analphabète, il n'avait pas la même ouverture, il chantait pas aussi bien que Duart. Donc c'est tout ça pour dire, c'est souvent je suis partie de situations très réelles ou d'un petit souvenir ou d'un petit élément qui part du réel pour ensuite vraiment le laisser partir dans la fiction ou inspirer d'autres personnes que j'ai croisées. Par exemple, la grand-mère du film, elle m'a été inspirée par le mémoire d'un jeune garçon qui s'appelle Georges Diech, mm-hmm. qui est aussi issu de l'immigration, comme moi, né en France de parents portugais, et qui avait fait des études d'anthropologie et qui a fait son mémoire sur sa grand-mère qui était médium au Portugal. Et lui, il assistait enfant à ses crises de médiumité, c'est-à-dire sa grand-mère qui était prise par des convulsions, elle était prise par les défunts, et les gens venaient chez sa grand-mère pour s'apaiser... parce que ils n'arrivaient pas à dire au revoir ou parce qu'ils voulaient dire un dernier mot à la personne défunte. Et c'est en lisant le mémoire de Georges que je me suis dit « Ah oui, ma grand-mère pourrait être comme ça dans mon film. » Voilà. Donc ça, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ma propre grand-mère. Donc le film, il est fait comme ça, d'un mélange de mon histoire, des histoires qui sont venues à moi, des histoires que j'ai pu lire, entendre aussi dans des livres anthropologiques. Notamment, j'avais lu un livre d'un anthropologue portugais qui s'appelle Miguel Montenegro, qui a écrit « Bruxo ». Voilà, et qui était vraiment, il a pendant 10 années observé la bruxerie au Portugal, et du coup, c'est en ce livre, c'était super parce qu'il y avait des témoignages de famille et d'événements qui se passent. Et par exemple, la grand-mère qui vomit de la boue avec des cheveux, c'est tiré de témoignages de personnes qui ont été ensorcelées. Enfin, et en même temps, j'ai été aussi du côté de la France parce que la sorcellerie n'est pas que portugaise. J'espère que mes auditeurs le savent quand même. Que le but, c'est pas de dire que nous, les Portugais, nous sommes tous fous à croire à ces histoires. C'est mondial, c'est international. Le nombre de spectateurs qui viennent me voir de partout en me disant, mais moi, c'est pareil. Absolument. Simplement, c'est juste que ces histoires sont maintenues secrètes, comme je disais tout à l'heure. Mais donc, il y a une anthropologue française qui a écrit aussi sur la sorcellerie en France. Et en France, ça va jusqu'à la mort. Moi, j'avais jamais entendu parler de sorts qui vont jusqu'à la mort au Portugal. C'est vraiment dans le livre de cette anthropologue Jeanne Favré-Saada. Le livre s'appelle « Les mots, les morts et les sorts ». Et là, elle parle vraiment de troupeaux de bêtes entiers qui sont morts par des sorts ou vraiment des êtres humains qui meurent ensorcelés. Et d'ailleurs, j'ai contacté Jeanne Favré-Saada il y a quelques jours pour l'inviter à mes avant-premières. Et elle m'a dit qu'elle avait pensé à venir à Trajusmonte aussi pour observer
la
sorcellerie. Puis finalement, elle est restée dans le bocage en France parce qu'elle voulait rester dans une culture française. Mais elle savait aussi qu'il y avait de puissantes croyances dans les montagnes transmontanes, même si la bruxerie, elle est aussi dans plein d'autres endroits au Portugal, et d'ailleurs souvent dans les villes. De mes enquêtes, souvent à Lisbonne, Porto. En fait, c'est partout. Enfin, ça fait partie de l'humanité, quoi, ces croyances.
D'où la vertu anthropologique de votre film.
Oui, donc c'était ça. C'était à la fois des expériences plus personnelles, les expériences qu'on m'a livrées, et puis une observation plus, on va dire, pas scientifique, mais quasiment en tout cas anthropologique, des témoignages que j'ai pu lire dans des livres ou des praticiens que j'ai pu rencontrer. Et ça, c'est pour l'aspect plus ésotérique du film, mais après, par rapport à la réalité de cette famille, parce qu'il est aussi question d'une crise familiale autour de la mort. Bon, bah là, je veux dire, je me suis inspirée. C'est vieux comme l'histoire de l'humanité, quoi. Des familles qui se disputent autour des mortes. Enfin, c'est dans beaucoup de films au cinéma, dans plein de romans, quel que soit le milieu social, quel que soit le pays, je veux dire, le fait de quand la mère meurt ou une matriarche meurt, les fratries se divisent et ça, c'est très inspirant d'ailleurs.
Pour revenir sur l'aspect pécunier du théâtre que vous évoquiez à l'instant, C'est particulier puisque quand on pense au cinéma, on pense aussi tout de suite à l'argent. Un de nos auditeurs là, qui aimerait faire un film, il ne peut d'abord pas le faire parce qu'il n'a pas les moyens.
Oui, ben moi, mon tout premier film, je l'ai autofinancé. Le premier court-métrage de fiction... Déjà au Cap-Vert, j'avais trouvé une subvention pour partir au Cap-Vert. Après l'Angola, j'avais un producteur. Mais mon premier film de fiction... parce que c'est encore autre chose, il y a le documentaire, la fiction, c'est encore des mondes différents, ça se finance pas de la même façon. Et donc mon premier film de fiction, Sol Branco, que j'ai tourné dans le village justement de ma mère, là où j'ai fait Alma Viva, bah, je suis partie avec 5000 euros que j'ai mis de ma poche. Et on m'avait prêté une caméra, j'ai loué des micros, et puis du coup je joue dedans, j'ai filmé mes cousines... J'ai filmé les gens de mon village et j'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Mais après, je suis arrivée avec des images et là, je les montre à des producteurs et notamment ma productrice que j'ai rencontrée, en 2014, au moment de Sol Branco. Je lui ai montré les images et elle m'a dit, ah oui, c'est super, je te suis. Et ensuite, grâce à elle, on a trouvé les financements pour faire le montage, pour finir le film.
Il y a une dynamique qui se met en place.
Le talent, on a été prise dans des festivals et là, la carrière a commencé à se mettre en place grâce au festival, quoi.
Mais justement, Alma Viva est votre premier long métrage. Il a été sélectionné, je le rappelle, à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2022 et il faisait partie des présélectionnés à l'Oscar 2023 du meilleur film étranger. Comment avez-vous reçu ces nominations?
Oh ouais, c'est vraiment des moments de joie, mais c'est rare, ça arrive rarement, je pense, dans une vie, et j'ai sauté de joie.
Tout de suite pour le premier film.
J'avais déjà eu la chance de vivre deux fois la Bonne Nouvelle de Cannes, puisque j'ai eu deux de mes courts-métrages qui étaient déjà à la Semaine de la Critique. Donc j'avais déjà sauté de joie deux fois. Mais là, sur le premier long, c'était pas automatique, les équipes avaient changé, enfin, c'est jamais automatique, c'est vraiment le film qui l'emporte, et donc j'étais vraiment, vraiment très heureuse, Là, on croit au miracle à ce moment-là.
On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Christelle Alves-Mera, j'ai reçu une question d'un de nos auditeurs, en réalité d'un de mes collègues qui est venu me voir, vous voir aussi, et poser cette question, mais je vais en faire profiter nos auditeurs et auditrices. C'est une question technique. Combien de caméras, quelles caméras ont été utilisées? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus?
Oui, alors moi je voulais filmer avec deux caméras plusieurs scènes, notamment les scènes où il y a beaucoup de monde, parce qu'il est souvent question dans le film de ces petits espaces où tout le monde rentre. C'est comme ça aussi que j'ai vécu la réalité transmontane, en tout cas dans ces montagnes, c'est qu'on a un manque d'intimité et souvent les gens rentrent, sortent. Et même au moment justement de la veillée funèbre, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et en fait, mon chef opérateur, Rui Poss, je me disais, non, mais deux caméras, c'est une galère parce que ça veut dire deux preneurs de son. Ça veut dire que tu peux toi voir. En fait, à chaque fois qu'on filme, il y a un moniteur aussi, donc ça veut dire deux moniteurs. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Et il avait tout à fait raison. Et du coup, on a plutôt filmé avec une caméra. C'était une Alexa, une mini Alexa, donc c'est une caméra numérique, c'est pas de la pellicule, pour des raisons financières, puisque moi j'aurais beaucoup aimé tourner en pellicule. Et d'ailleurs, au moment de l'étalonnage, c'est après en post-production, on travaille chaque image, chaque couleur, en fait, tout est retravaillé. Au moment de l'étalonnage, j'ai rajouté un petit grain pour donner cette impression de pellicule, puisque le film, on sait pas trop quand est-ce que ça se passe. Et justement, je trouvais que la pellicule pouvait ramener comme ça une dimension un peu nostalgique qui me plaisait. Donc, on a rajouté un petit grain de pellicule en post-production, mais on a tourné en numérique. Et en revanche, il y a une scène où là, il y avait vraiment deux caméras, c'était vraiment obligé. C'était cette fameuse scène de 20 jours, là,
la procession.
Du cortège final, où en fait... il y a le village qui est évacué à cause de l'incendie et en même temps, il y a le cortège funéraire. Il faut aller enterrer cette grand-mère qu'on n'a toujours pas enterrée. Et donc, il y a deux actions en parallèle entre les pompiers qui évacuent les maisons, les animaux qui sortent des maisons pour quitter le village et en même temps, ce cortège avec le prêtre, les prières, le cortège funéraire. Et en fait, c'était ce choc entre ces deux situations complètement... c'est burlesque. Enfin, je veux dire, dans la vie, ça n'arriverait pas. Là, c'est vraiment la force du cinéma qui nous permet de créer des chocs comme ça, de situations assez amusantes. Et là, on avait deux caméras pour gérer tous ces figurants et tout, pour pas leur demander de répéter trop souvent. C'était aussi des personnes âgées. Il faisait chaud. À Trajoumont, il fait déjà très chaud en juin. Donc, les deux caméras, elles étaient nécessaires. Mais c'est vrai que ça implique des coûts. Deux caméras, ça coûte cher. En plus, c'était avec un Steadicam. Steadicam, c'est un système qui permet à la caméra de se déplacer, en tout cas d'avoir une caméra épaule qui est plus maîtrisée. Et ça aussi, ça coûte cher. Après, on a, au niveau technique, on avait aussi un drone à la fin, parce qu'il y a tout un plan comme ça de la, c'est le point de vue de l'âme vivante, de justement absolument, de l'esprit ouais. de la grand-mère qui passe au-dessus du village. Moi, j'aurais aimé un hélicoptère. Bon, on m'a rayonné, on m'a dit, oh oui, bien sûr, un hélicoptère. On n'avait vraiment pas les moyens, donc on a pris un drone, et puis en fait, ça marche très
ça
bien.
Ça fait l'affaire. Ouais.
Il faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que sinon, ça bougerait trop. Mais là, comme il n'y avait pas trop de vent, on a mis un objectif un peu performant et ça marche très bien.
On revient peut-être brièvement pour conclure, Christelle, sur les ciné-rencontres qui ont lieu à partir du 13, puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière avant-première. Ce sera à Paris, Paris 13, au MK2 Bibliothèque François Mitterrand. Demain, le film sort en salle et les ciné-rencontres commencent.
Voilà, donc demain, le film sort en salle dans toute la France. Donc, si vous voulez le voir, il est forcément dans une ville près de chez vous. Mmh. Il suffit d'aller sur Allociné, de mettre Alma Viva et vous verrez toutes les séances que vous pouvez avoir près de chez vous. Donc ça, c'est dès demain. La première semaine, c'est vraiment important parce que en fait, aujourd'hui, les films, il y a tellement de films qui doivent sortir depuis le Covid. Il y a des films qui ne sont pas sortis, donc ça crée un embouteillage. Bref, tout ça pour vous dire que les films peuvent ne pas rester très longtemps en salle si les spectateurs ne se déplacent pas dès la première semaine. Donc, je compte sur les auditeurs de Radio Alpha pour aller au cinéma cette semaine ou ce week-end. Enfin, en tout cas, dès la première semaine, le film, à partir de demain, vous pourrez le voir. Et puis, donc, moi, je continue d'accompagner le film. Donc, il y aura des séances spéciales où vous pourrez me rencontrer à la fin de la séance. Et ça, la liste des séances spéciales sont sur mon Facebook ou sur ma page Instagram.
Oui, je peux donner quelques villes. J'en ai 13 là sous les yeux. Douarnenez le 13 avril au club Tournée Cinéphare. Le 14 à Morlaix dans la Salamandre. Le 15 à Saint-Renan, donc dans une salle qui s'appelle Le Bretagne. Le 16 à Bayonne. Le 17 avril à Bordeaux. Le 18 à Montreuil. Le 20 à Argenteuil. Le 21 à Montmorency et à Montgeron. Le 25 à Andernaux dans une salle qui s'appelle la Dolce Vita, le 28 avril à Ivry-sur-Seine dans le Luxy, le 29 à Pessac et le 30 à La Roche-sur-Yon dans la salle Le Concorde.
Et pour les auditeurs qui auraient de la famille à l'étranger, le film sort en Belgique, aux Pays-Bas le 25 avril, au Luxembourg aussi le 25 avril, et puis en mai, le 5 mai, il sort en Suisse et en Espagne.
Et il y a prochainement le DVD au Portugal, peut-être ?
Et le DVD aussi va être édité là, début juin, il y aura le DVD en portugais, oui.
Très bien. Et de toute façon, la première semaine est décisive, mais il y a les chiffres des avant-premières qui rentrent dans cette première semaine ou pas ?
Oui, heureusement. Comme il y a eu beaucoup d'avant-premières, là on est déjà à 4000 entrées, mais bon, il faut tenir bon, il faut vraiment y aller la première semaine, sinon...
Et vous pouvez de toute façon découvrir le film dès ce soir, on peut encore prendre sa place. Oui. C'est au MK2 Bibliothèque François Mitterrand à Paris 13, une superbe salle. C'est à Paris, donc c'est ce soir à 20h, si je ne m'abuse.
Ce soir à 20h, et d'ailleurs pour les salles parisiennes, il y aura donc dès demain, c'est MK2 Bibliothèque, le Reflet Médicis, le Cinéma des Cinéastes et le Luminor. Et je sais aussi qu'il est à Créteil, à Saint-Denis. Enfin, regardez, il y a 50 salles, donc vous avez de
plein
quoi,
de salles.
De quoi
il suffit
faire.
D'avoir un pass UGC ou MK2 pour le voir, ou même voilà. Un pass Pathé Gaumont, puisque de toute façon, les salles voilà. que vous venez de citer fonctionnent avec les deux passes. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas aller voir ce film.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Christelle Alves-Mera, d'avoir accepté mon invitation et d'être
Merci.
Venue jusqu'ici.
Merci de m'avoir invitée, je suis très contente. Merci, au revoir.